Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez Chronique de la vie parisienne, dirigée par Jean-Paul Charigues de Olmeta. Diffusée en direct mercredi 20 septembre 2017 de 10h45 à 11h45 et réalisée par Philippe. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Chers amis auditeurs, bonjour. Évidemment, comme d'habitude, très heureux de vous retrouver. Je vais faire assez vite parce que c'est une émission qui, je pense, va vous intéresser grandement parce que j'ai un invité qui a des choses intéressantes à dire. Je voulais simplement vous dire qu'en arrivant, j'ai pris connaissance du courrier qui a été déposé depuis un mois. Alors, je vais répondre à tout parce que c'est des lettres tout à fait aimables. Mais je veux rassurer tout de suite la personne qui m'a écrit pour me parler d'un cheval un petit peu âgé et qui se sent seul. Je vais faire tout ce que je peux pour m'en occuper à travers l'association de sauvegarde des équidés. Voilà, je vous promets de m'en occuper dans les jours à venir. Voilà. Vous savez que Radio Courtoisie essaye de parler français, en tout cas d'éliminer les anglicismes et autres barbarismes. Mais moi, j'ai souvent fait remarquer qu'on disait trop souvent en fait, qu'on a commencé à dire un peu moins au niveau de. Et maintenant, si vous écoutez bien tous les hommes politiques, tous les gens qui ont quelque chose à dire, il n'y a plus de problème, il n'y a que de la problématique. Alors vous regarderez dans un dictionnaire et vous verrez la différence entre un problème et une problématique. Maintenant, on a une fuite d'eau. Pour moi, c'est un problème. Maintenant, c'est une problématique. Alors qu'une problématique, c'est un ensemble de problèmes et c'est une question mal posée dans le sujet d'un exposé. Donc, faisons attention à ce que nous disons. Quelques mots qui vont fâcher, avant quelques mots qui vont plaire. Pierre Berger est mort, personne ne se réjouira jamais, en tout cas en tant que chrétien, de la mort de quelqu'un. Surtout que Pierre Berger, vu sa pensée, n'est sûrement pas à la droite du Seigneur. De toute façon, je pense qu'il n'aurait pas voulu y aller. Mais je voulais quand même dire deux, trois mots. On sait les combats que j'ai menés avec vous tous contre les idées de Pierre Berger, qui lui-même nous combattait sur des sujets de société extrêmement importants. Mais Pierre Berger, c'était pas que cela aussi. C'était déjà un personnage amusant, en ce sens que lorsqu'il vous parlait gentiment, on avait l'impression qu'il vous engueulait. Donc c'était pas tout à fait en sa faveur. Mais c'était un homme qui a été toujours très généreux dans la plus grande discrétion. Et il n'est pas né milliardaire, et donc c'était pas facile. Mais une fois qu'il a eu de l'argent, il a sauvé la maison de Zola à Médan, la maison de Cocteau. Il s'est occupé du fils de Cocteau, des petits-enfants de Cocteau. Il était d'ailleurs le parrain du deuxième petit-fils. Et puis je vais pas revenir sur tout ce qu'il a fait d'une façon anonyme. Je voudrais préciser, comme j'étais quand même syndicaliste et que je sais comment ça fonctionne, que lorsqu'il a été à la tête de l'Empire Saint-Laurent, des usines avec des milliers d'employés, des boutiques avec des centaines de gens à travers pratiquement tous les pays, il n'y a jamais eu de mouvement de grève ni quoi que ce soit. Et c'est la loi qui a obligé à ce qu'il y ait dans tous ces établissements des comités d'entreprise et des délégués syndicaux, parce que Pierre Berger, avec son personnel, était un homme de dialogue et ils ont tous aimé ce patron. Voilà. Ça n'en fait pas un saint, ça ne cache en rien tout ce qu'il a pu faire de pas bien, mais je voulais tout simplement dire ça. Et pour l'avoir connu, il disait lui-même, et il avait raison, qu'il n'avait pas de foi, qu'il n'avait pas de loi, mais qu'il n'avait qu'une parole. Et ça, c'était vrai. Bien, encore un petit mot sur une actualité plus proche. Vous vous souvenez, comme moi, qu'à la demande de l'impératrice Eugénie, l'empereur Napoléon III avait nommé Prosper Mérimée inspecteur des monuments historiques, ce qui nous valut d'avoir Notre-Dame violée par le duc, le château de Pierrefonds également violé par le duc. Eh bien, le copinage perdure, puisque Stéphane Bern, qui est très ami avec Madame Macron, ouais, quand on parle d'histoire, ça tombe très bien, et donc Sa Majesté Macron Ier vient de nommer, à titre gracieux bien entendu, le luxembourgeois Stéphane Bern dans les mêmes fonctions que Prosper Mérimée. Et ben moi, je suis très content que le copinage continue. Tout ça est très joyeux, tout va très bien dans le pays, donc c'est parfait qu'on s'amuse comme ça, d'une façon épatante. Je trouve ça follement gai. Avec un « i », bien entendu, je ne veux pas avoir d'histoire. Et enfin, dernière chose, je suis un peu à cran, parce que le cran, que vous connaissez tous, est en train de mener campagne pour qu'on débaptise tout ce qui les lycées qui s'appellent Colbert, qui se nomment Colbert, et également qu'on enlève les plaques de rue Colbert, parce que Colbert, au moment de l'esclavage, a signé le traité noir. Bien, alors, je trouve tout ça ridicule. Je pense que quand on analyse l'histoire du Moyen-Âge, l'histoire du XVIIIe siècle, l'histoire même du XIXe, il faut peut-être quand même ne pas juger avec les arguments et les éléments d'aujourd'hui. Tout ça, c'est une histoire pour enquiquiner le monde, pour se rendre intéressant. Je pense qu'il y a autre chose à faire. Mais moi, je fais une proposition. Nous, les Blancs, on est Blancs, ben c'est un hasard, hein, on aurait pu naître noir. Eh ben, je pense qu'on devrait s'organiser en une espèce de cran à notre tour pour demander des comptes quant à l'anthropophagie. Je pense au nombre de missionnaires qui ont été bouffés aux petits oignons. Hein. Alors, si on veut partir dans ce domaine, je vous dis, parlons un peu, après l'esclavage qui est une honte, on pourrait peut-être parler de l'anthropophagie. Certains bons esprits vont me dire que c'est de la gastronomie. Donc, très bien. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux choses beaucoup plus sérieuses. J'ai la joie de recevoir M. Alban Darguin, qui a écrit un bouquin formidable qui s'intitule « Éolienne, virgule, un scandale d'État » et qui est édité aux éditions de Synthèse Nationale. Alors, cher ami, on peut dire cher ami quand même,
bonjour.
Alors, bonjour. Oui. Eh bien, pourquoi ce livre ?
Je pense comme tout le monde, ou comme tous les êtres normalement constitués, en sillonnant la France, j'ai vu naître ces monstres de presque 150 mètres de haut pour les pylônes, plus les pales, vous voyez qu'on est proche des 200 mètres, et je trouvais que c'était abominable sur le plan de la beauté de la France, de ses paysages, etc. Et puis, il se trouve que j'ai eu à creuser cette question dans un cadre beaucoup plus personnel, c'est que cette folie éolienne était en train de gagner l'ouest de la France et notamment le village où j'étais installé. Et à ce moment-là, j'ai commencé à regarder très très près, avec une association que nous avons fondée, à regarder de très très près le sujet. Et là, j'ai découvert des choses épouvantables et qui touchent bien au-delà de la simple atteinte au beau.
Je voulais vous dire à ce propos, je crois que quand nous sommes convenus de cette émission, oui, je vous l'avais dit au téléphone, moi j'ai une approche très très ancienne, j'ai deux approches, des éoliennes, la fameuse éolienne avec des ailes qui tournent à côté du ranch pour faire monter l'eau, ou dans le train sifflera trois fois pour alimenter la locomotive. Bon, ça c'est une chose. On va rester dans le cinéma, ça doit faire à peu près une trentaine d'années. Au crépuscule, j'arrivais en voiture, on était dans la banlieue de Los Angeles, et il y a une colline, donc vous voyez, on est un chien et loup, quoi. Bon, c'est un éclairage un peu extraordinaire, et j'ai découvert, sur une colline comme ça, alors je sais pas si c'était des centaines, mais j'avais l'impression qu'il y en avait des milliers, de ce qu'on m'a dit, ce sont des éoliennes, effectivement, ce que vous venez de décrire, ces grands machins extrêmement hauts, avec des bras qui tournaient. Et j'ai été partagé d'un seul coup par une espèce de truc, je suis dans un film de science-fiction, mais après je me suis rendu compte que c'était la réalité, et j'ai été effrayé, et j'ai pensé, je ne sais pas pourquoi, à Don Quichotte contre les moulins. Voilà, mon impression des éoliennes, et alors après j'ai lu votre livre avec intérêt, mais j'ai toujours cette vision, j'ai eu 20 secondes de démerveillement en disant c'est un film de science-fiction, et après tout de suite j'ai effrayé, j'ai dit mais attends, parce que le lendemain après, quand le soleil s'est levé, j'ai vu le paysage beaucoup mieux. Ça n'avait pas du tout ce côté extraordinaire avec le ciel est orange, et j'ai trouvé ça épouvantable. Il y en aurait eu une Corbon, mais des régiments d'éoliennes, c'est absolument épouvantable.
Alors j'aime bien votre parallèle avec Don Quichotte et les moulins, parce que il se trouve que j'étais en Espagne l'été dernier, et puisque nous approchons de l'automne maintenant, et à grands pas, et en fait, l'Espagne est hérissée, oui. Les magnifiques paysages espagnols sont hérissés d'éoliennes, ils en ont construit 18 000. Et en plus, sur des crêtes, exactement ce que vous dites. C'est une horreur absolue.
On les voit de très loin. C'est probablement une espèce de syndrome espagnol. Dès qu'on a commencé à construire, pour faire venir les touristes, on a construit n'importe quoi. Des barrières de béton, on aurait pu faire ça plus joli. Bon, ils ont découvert les éoliennes, ils se sont lancés là-dedans à fond.
Voilà. Ils se sont lancés là-dedans à fond et ils ont stoppé à fond. À l'espagnol aussi.
Oui.
Puisque là, depuis 2012 ou 2013, le gouvernement a stoppé net et a dit c'est terminé, il n'y aura plus une éolienne, mais il y en a 18 000 aujourd'hui, qui hérisse le sol.
C'est beaucoup.
Voilà. Ouais, c'est catastrophique.
Alors, le but de la manœuvre, moi je ne sais pas très bien comment ça fonctionne, en effet. Le but de la manœuvre, c'est de fabriquer de l'électricité.
Absolument.
Est-ce que ça marche à tous les coups ?
Alors, le but de la manœuvre, il est un peu plus compliqué que ça. C'est bien sûr de fabriquer de l'électricité. Une éolienne, c'est fait pour ça, normalement. Mais c'est surtout parce que derrière tout ça, il y a le grand mouvement planétaire sur la lutte contre le réchauffement climatique. Évidemment, d'accord, évidemment, c'est important. On le sent d'ailleurs très bien. Je prenais le journal du jour ça doit être aujourd'hui ou je sais pas quoi, dans un kiosque ce matin, et il y a un article, tous enrhumés, etc. Les températures basses de ces derniers jours ont entraîné une multiplication des éternuements, etc. Mais enfin, je ne comprends pas ce journal. C'est aujourd'hui. Il n'est pas en phase avec la thèse mondiale du réchauffement climatique et nous serions dans un refroidissement temporaire. Alors je plaisante, mais je dis ça simplement pour montrer à quel point on est dans une communication de l'instant qui fait que finalement, il fait chaud, c'est le réchauffement climatique, il fait froid, on se tait, ou alors on parle de dérèglement climatique, on parle plus de la même façon.
Oui, parce que oui. Ouais.
Mais il faut amuser la galerie et surtout formater les esprits tout ce qu'il y a derrière ce réchauffement climatique, dont la bascule vers les énergies dites renouvelables, qui n'ont de renouvelable que le nom pour la majorité d'entre elles, et dont l'éolien est un pan très important. Voilà.
Je me suis trouvé il y a quelques semaines maintenant en Belgique, sur un bateau, avec des gens qui faisaient cette petite croisière avec moi. Il y avait un monsieur qui était un ingénieur, gentil comme tout, qui ne la ramenait pas spécialement, mais qui m'a expliqué que, par exemple, tous les panneaux solaires, c'est une ânerie totale, en me disant qu'il y a des maisons qui s'écroulent parce que c'est trop lourd. Après les éoliennes, il m'en a dit un mal épouvantable. Alors, je lui ai dit, tiens, justement, ça tombe bien. Mais justement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des gens qui gagnent de l'argent avec ça.
Ah, ça, c'est certain.
Oui, voilà,
si on va sur le fond du sujet, il y a des gens qui gagnent énormément d'argent et qui sont d'ailleurs, parenthèse, tous des consortiums étrangers. Puisque la France ne sait pas ou n'est pas rentrée dans l'industrie de l'éolien, je serais tenté de dire Dieu merci parce que on pourra stopper les consortiums étrangers et on les enverra.
Mais alors toutes les éoliennes qu'il y a par exemple dans votre village ou ailleurs en France, alors elles appartiennent à qui ?
Les éoliennes appartiennent à des sociétés privées. En fait, c'est un prodigieux fromage.
Voilà.
C'est même une bulle financière, et c'est un scandale d'État, c'est l'objet du livre, c'est vraiment un scandale d'État, parce que sur le plan financier, ces gens-là ne prennent aucun risque. Ils ne prennent aucun risque.
Ah non, puisqu'ils plantent un truc, ça tourne ou pas, puis c'est...
Ils ont des sociétés écrans ou des petites sociétés commerciales qui prospectent les élus locaux, partout, dans toute la France, pour obtenir des endroits propices à l'éolien, à l'implantation d'éoliennes, alors moyennant un certain nombre de choses dont on parlera peut-être tout à l'heure sur la corruption.
Ça se fait par décret, par exemple, un maire peut dire voilà, cet emplacement.
Non. Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. D'abord, il faut déjà que des personnes privées veuillent bien louer leurs terres. Et c'est le premier travail de ces sociétés commerciales. Elles commencent par prospecter les cadastres, regarder les endroits qui pourraient être propices, regarder quels sont les noms des propriétaires, aller les démarcher avec des contrats ou des promesses de baux à long terme qui sont totalement confidentiels. Il y a une clause de confidentialité qui dit bien si jamais, je connais bien le sujet à titre personnel, si jamais vous parlez de ce contrat et de cette possibilité d'éolienne chez vous, à ce moment-là, nous romprons le contrat unilatéralement. Or, comme il y a de l'argent derrière tout ça, puisque une éolienne, un pied d'éolienne implanté, c'est entre 7 et 8 000 euros par an de loyer pendant 30 ans. Quand vous êtes exploitant agricole, avec la situation qu'on connaît de l'agriculture française, on n'hésite pas trop, parce que ça améliore nettement la rentabilité de la terre. Voilà. Mais il n'y a pas, ceci dit, il n'y a pas que des exploitants agricoles. Il y a aussi des propriétaires fonciers qui s'en moquent parce qu'ils vivent en ville et qu'ils n'ont aucun souci, et qui poussent aussi, eux, pour avoir des revenus supplémentaires.
C'est un peu le système. Quand il y avait, moi je me souviens quand j'étais enfant dans la propriété, il y avait un poteau EDF, donc il y avait une petite indemnité. Alors bon, là c'est plus important, mais c'est le même système. Ah ben ça vaut le coup, vu ce que vous dites.
Ça peut valoir le coup, mais ça c'est ça, donc ça, il y a ces sociétés commerciales qui prospectent. Une fois qu'elles ont fait ça et que les contrats sont signés, ils discutent avec la mairie, parce qu'il faut quand même un avis du conseil municipal. Ce qu'on constate, là encore, c'est que dans les conseils municipaux des petits villages français, il y a souvent des propriétaires fonciers. Il y a quelquefois des confusions dans les genres, des prises illégales d'intérêt, pour parler très clairement. Il y a un nombre de dossiers phénoménaux qui encombrent la justice en ce moment, là-dessus. J'ai en tête un maire dans une commune du Nord qui avait simplement, bien sûr, participé à un projet éolien et avait fait voter le conseil municipal à l'unanimité. Et on s'est aperçu après coup qu'il avait 15 éoliennes sur ses terrains à lui.
Question annexe, ces sociétés qui exploitent tout ça payent des impôts en France
Alors, les petites sociétés, contre, les consortiums, dans le détail, ça dépend qu'est-ce qu'il y a dans le capital, mais comme il est majoritairement étranger, vous l'imaginez. Et tout ça se faisant, bien sûr, sous l'égide de l'Europe et de la Commission européenne, puisque si nous sommes dans cette véritable invasion et infestation de l'éolien en ce moment, et c'est loin d'être fini. On pourra parler de Nicolas Hulot si vous le voulez. C'est loin d'être terminé. Et Macron premier, comme vous disiez. Nous en sommes là, c'est parce que la Commission européenne impose aux États membres d'avoir, c'est ce qu'on appelle la règle des 3-20, à horizon 2020, au moins 20% de la production d'électricité qui soit une production d'origine énergie renouvelable.
Ça entraîne les éoliennes.
Ça entraîne les éoliennes. Le solaire restera toujours un pouillème parce qu'il y a quand même derrière tout ça des choses amusantes. Ce sont pourtant des gens qui réfléchissent, mais le solaire, on sait tout de même que la nuit, en général, ça ne produit pas beaucoup d'électricité. Mais pire que ça, le jour, il y a aussi des nuages. Donc ça ne marche pas tout le temps, loin de là. L'éolien, c'est pareil. Alors, ce n'est pas le soleil qui joue, mais l'éolien, ça ne marche que s'il y a du vent. Et encore, il faut que ce vent soit d'une bonne puissance, mais pas trop non plus. Sinon, on est obligé de les débrayer, parce que si on ne les débraye pas, on va retrouver les pales à 500 mètres de là, les maisons voisines, puisque malheureusement, en France, la règle veut que nous ayons le droit d'implanter des éoliennes à 501 mètres d'une habitation.
S'il y a une tempête, 500 mètres, c'est pas beaucoup.
Oui, mais s'il y avait que le sujet de la tempête, il les débraye, puisque tout ça est géré par satellite, à l'étranger en plus. Tout ça se fait, il y a un petit peu d'entretien comme ça.
Ça coûte pas grand-chose.
Mais par contre, tout l'actionnage des éoliennes se fait par satellite et sur des tableaux de commande qui sont quasiment tous à l'étranger.
On sait qui tient les manettes, quand même.
Oui, bien sûr. Ce sont ces fameux consortiums, que ce soit ceux qui construisent et ceux qui exploitent. Voilà.
Donc ils font ce qu'ils veulent.
Qui sont principalement, pour parler clair, ce sont des Danois, avec une société qui s'appelle Vestas. Ce sont les Allemands, qui ont bien sûr une grosse expertise en éolien, pour une raison simple, c'est qu'ils ont quitté le nucléaire sous la pression des Grunen, vous savez, les pastèques. Ils sont verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur, dont Cohn-Bendit, qui était quand même un des verts allemands de l'époque du gouvernement Schröder. Et donc les Allemands se sont jetés à corps perdu dans l'éolien. Ils ont abandonné le nucléaire et eux, ils ont une grosse expertise. Et maintenant, ils essayent de vendre, bien évidemment, puisqu'ils ont atteint pratiquement le seuil maximal d'éoliennes sur leur terrain. Et ils cherchent maintenant, bien sûr, à se développer. Donc la France est un très bon marché pour eux.
dans ma campagne, là, j'avais dit une imbécilité, oui. Parce qu'il y a des éoliennes aussi, enfin, oui. pas à côté de chez moi, heureusement. Mais il y a quelqu'un qui m'expliquait moins bien ce que vous venez de me dire. J'ai dit, mais alors, quand ça tourne pas, il n'y a qu'à les faire marcher, l'électricité. Il m'a regardé, puis en même temps, il s'est dit, il ne doit pas être le seul à penser ça.
Parce mais ce n'est pas tout à fait faux, en plus, ce que vous dites.
Bon, après, vous
parce que figurez-vous qu'il faut aussi qu'elle tourne régulièrement,
oui, il faut pas que
parce que sinon, elle risque des dysfonctionnements, comme on dit. Et donc, pour ce faire, à certains moments, on est obligé de les faire tourner à l'électricité.
C'est
prodigieux. Hein. Donc, ça produit très peu, puisque le taux de charge, comme on dit sur les aérogénérateurs, une éolienne, c'est un aérogénérateur qui produit de l'électricité, le taux de charge, il est de l'ordre de 20 à 25% maximum. Voilà, on va dire 23% en moyenne. Ça veut dire qu'une éolienne, elle a un taux de charge par rapport à ce que l'aérogénérateur pourrait produire si c'était constant, il ne produit en réalité qu'à 23% en moyenne. Voilà.
Bon, alors, et l'électricité produite appartient à qui ?
L'électricité produite, elle appartient au consortium et ils la revendent dans des accords conventionnels avec EDF. Ils la revendent à EDF et ils l'injectent dans les réseaux puisque comme on ne la stocke pas, il faut qu'elle soit injectée à tout moment. Ce qui pose des problématiques énormes à EDF. Un, la première problématique... le premier problème. Excusez-moi, là, du coup, vous allez... Mais là, je pense qu'on peut parler de problématique parce que c'est tellement global pour EDF.
J'ai entendu y penser.
Mais si, pour nos auditeurs qui ont entendu le début de l'émission... Donc, pour EDF, la question de fond, c'est qu'il rachète dans ses conventions et à la demande de l'État l'électricité entre 3 et 4 fois le prix auquel eux-mêmes la produiraient. C'est donc bien une bulle financière,
oui,
avec des accords conventionnels de 15 ans. 15 ans.
Et qui ça veut dire signé tout ça
C'est une folie. C'est une folie, mais c'est ce qu'on appelle, vous savez, c'est un peu les idées hors sol.
Oui,
l'éolien, c'est bien parce que le vent, c'est propre. En plus, c'est inépuisable, donc c'est sûrement bien.
Oui.
Mais que ça souffle, en gros, 20% du temps, ça... Les crânes d'œufs qui sont derrière tout ça n'y ont pas pensé. À tel point que, quand même, parce que ça c'est important à savoir, les Allemands qui se sont jetés grâce au Grünen dans l'éolien, eh bien, sans rien dire à personne, qu'est-ce qu'ils ont fait ? En parallèle de ce développement éolien, parce qu'ils n'étaient pas complètement fous, ils ont rouvert des centrales à charbon,
oui.
Et ils en ont créé de nouvelles, ils en ont construit de nouvelles sans rien dire à personne.
Bien,
et aujourd'hui, l'Allemagne est le deuxième pays au monde à polluer. Et quant à l'Europe, c'est le pays qui nous pollue le plus. Et alors, sur ce sujet-là, il y a du vent. Parce que quand il y a des tempêtes ou quand il y a du vent d'est, ces particules fines qui sortent des centrales à charbon et cet oxyde de carbone, il va directement dans les pays voisins, dont la France. Et ça va jusqu'à Paris. Il faudra en parler à Anne Hidalgo, d'ailleurs.
Oui, ouais. Oui, oui, mais c'est intéressant. J'en profite pendant qu'on respire pour dire que nous sommes sur Radio Courtoisie, dans mon émission Jean-Paul Chirigas-Dolmetta, où je reçois M. Alban Darguin, qui est l'auteur de Éolienne, un scandale d'État, et qui est en train de nous expliquer pourquoi tout ça est un scandale d'État. Voilà. Et ça remue des idées. Il vient de me traverser une pensée. Mais dites donc, est-ce qu'il y avait des éoliennes à Saint-Barth, à Saint-Martin, à Porto Rico ?
Je ne pense pas.
Parce que dites donc, là, ce serait catastrophique.
Elles auraient été débrayées, de toute façon. Ouais, mais ouais. Mieux que débrayées, de toute façon, elles seraient à 100 mètres ou 300 mètres.
Elles auraient assommé pas mal de gens.
Oui, oui. Ouais.
Mais alors, justement... C'est bon, très bien, il y a des gens qui prospectent pour savoir si tel propriétaire accepte une éolienne sur son terrain. Mais les études pour savoir si le terrain est fiable, parce que bon, est-ce qu'on peut en installer à la Guadeloupe, à la Martinique ou pas, sachant qu'il y a des cyclones qu'il n'y a pas en Normandie, enfin, pour l'instant.
Oui, il y a des cyclones. Je pense que ce sont des régions qui ne doivent pas être très propices à l'implantation d'éoliennes.
Parce que là, ça tournerait vite quand même.
Mais y a-t-il des régions propices à l'implantation d'éoliennes ? La question pour moi, c'est non.
Au bout du compte, non.
C'est non, bien sûr.
Il y a trop de vent, il n'y en a pas assez.
Mais de toute façon, il y en a pas assez. Il y a 23% de taux de chargement. Le prix est exorbitant. Le prix de rachat de l'éolien est exorbitant. Sauf que l'astuce derrière tout ça, je ne sais pas si les auditeurs le savent ou si vous le savez. Si, parce que vous avez lu le livre. Mais en fait, ce surcoût pour EDF, quand il rachète l'électricité éolien, c'est nous qui le payons.
Ah bah oui,
vous comme moi.
Oui.
Et il est tout simplement, et j'invite les auditeurs à regarder leur facture d'électricité, quand vous retournez au verso de votre facture d'électricité, vous avez une ligne, petite ligne, qui s'appelle « Contribution au service public de l'électricité ». Et
C'est ça, donc.
Et c'est ça. Et en fait, c'est ce qui finance le développement des énergies renouvelables. C'est donc chacun de nous qui, dans notre énorme élan lutte contre le réchauffement climatique, etc., etc., enfin, toutes ces idées toutes faites qui sont démontées dans le livre aussi, parce que je parle du réchauffement climatique de façon très précise, ce sont ces idées folles qui nous conduisent à avoir aujourd'hui, j'ai fait le calcul juste avant le bouclage du livre, j'avais regardé ma dernière facture d'électricité, dans mon cas, il y avait, et c'est le cas de tout le monde, hein, mais il y avait pratiquement 32,5% de ma facture due de consommation électrique qui se rajoutait au titre de la contribution au service public d'électricité, donc pour financer à 90% l'éolien, puisque dans cette contribution, 90% l'éolien, 10% le solaire, etc.
Autrement dit, on est taxé pour financer une utopie.
On se tire une balle dans le pied, une double balle dans le pied. Oui, bien sûr.
Bon, et alors, il n'y a que vous qui protestez, apparemment, parce que...
Non, il n'y a pas que moi.
C'est vous que j'ai entendu le plus.
Disons que c'est certain que le livre a un électorat de plus en plus important, et tant mieux.
On s'en réjouit.
Et on s'en réjouit, voilà. Ça, après, la question, c'est est-ce que... vous savez, souvent, on dit, quand une idée revient et qu'elle est défendue, et qu'elle est réelle, il faut un certain temps pour que ça remonte des pieds à la tête de nos gouvernants et de nos dirigeants.
La prise de conscience, déjà, il faut qu'elle soit affinée. Puis après, il faut que ça s'exprime et que les dirigeants prennent des dispositions. Seulement, apparemment, il y a tellement d'intérêts... en jeu qu'on n'a pas envie de...
C'est ça la grande question. C'est ça la grande question.
En dehors de brasser du vent, ou du vent qui peut... Ouais. Ça brasse du fric.
Parenthèse, cette fameuse contribution au service public d'électricité...
C'est très faux-cul comme appellation.
C'est très faux-cul, oui, parce que c'est pas dit en clair ce que c'est. Voilà, ouais. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette contribution, pour 2016, elle était provisionnée dans les comptes d'EDF pour 11 milliards d'euros. 11 milliards d'euros. On peut en faire des éoliennes avec ça. Donc ça ne va pas s'arrêter. Et ça va d'autant moins s'arrêter, malheureusement, et ça il faut que vraiment tout le monde en ait conscience, que dans les premières déclarations de Nicolas Hulot, à peine nommé ministre d'État quand même. Excusez-moi du peu. Il en rêvait, il l'a eu. Il a quand même annoncé la fermeture de 17 centrales nucléaires dans les... Alors maintenant, il est un petit peu plus flou là-dessus, parce que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Si ça se fait, on peut parier sur 50 000 éoliennes en France, ce qu'on n'aura jamais vu. Autant dire que le pays sera totalement défiguré, indépendamment des riverains qui souffrent dans leur chair. Aussi.
Mais alors bon, 50 000 éoliennes, et puis il n'y a pratiquement plus que ça pour faire de l'électricité. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne très très bien et qu'il y ait de l'électricité constamment.
Il n'y aura pas d'électricité constamment. Là, regardez, en ce moment, là, ce matin, il n'y avait pas énormément de vent. Pense que dans notre studio, si on n'était qu'à l'éolien, je pense qu'on serait dans le noir avec des bougies.
Bravo. Oui, moi, je veux bien qu'on revienne à moins de pollution, moins de ceci, moins de cela. Enfin, c'est le Moyen-Âge. Après, il va y avoir d'autres pollutions.
Bien sûr. Bien sûr.
Ça, c'est curieux. Ça.
Regardez le cas de l'Allemagne, quand même. C'est vraiment la folie d'une idée pure. Voilà des gens qui polluent toute l'Europe, et eux-mêmes compris.
Mais d'ailleurs, ils n'en parlent pas trop.
Ils s'en vendent pas.
Du tout.
Mais vous savez qu'il y a un phénomène, une anecdote amusante. L'ancien président, directeur général, il est maintenant président du conseil d'administration, mais il est en train de se retirer, à l'époque c'était GDF, Gaz de France, avait fait une déclaration à Montréal, je la cite dans le livre, je ne sais pas si vous l'avez vu, il avait fait une déclaration à Montréal au Forum économique des Amériques, dans lequel il disait, écoutez, c'est très simple le problème éolien, ou la question de l'éolien, c'est extrêmement simple. Imaginez une île verte, c'est son image, une île verte qui a besoin d'électricité pour sa population, et ils ont besoin de 1000 mégawatts. Et 1000 mégawatts d'électricité, ils construisent des éoliennes, un champ d'éolien, pour produire 1000 mégawatts d'électricité. Ça va. Sauf qu'il n'y a pas de vent tout le temps.
Non.
Ils s'en rendent compte aussitôt. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de trouver une énergie supplétive.
Ah oui.
Et il est patron quand même de GDF, Gaz de France, GDF Suez. Et donc, il dit, écoutez, c'est très simple. Il faut trouver une énergie qui peut s'activer à tout moment extrêmement vite. Il n'y en a qu'une. Il y a le fuel, mais ça ne m'intéresse pas. Il y a le gaz. Et donc, l'île verte, elle construit pour 1000 mégawatts, l'équivalent de sa production nécessaire, en centrale. à charbon. Ce qui fait qu'au final, l'électricité produite, elle coûte le capital immobilisé pour construire les éoliennes, pour construire les centrales à gaz. Comme les centrales à gaz ne vont fonctionner que 70% du temps et non pas 100% du temps, le capital va s'amortir sur plus longtemps, etc. etc. Je poursuis pas plus loin le calcul économique, mais on voit très bien que c'est une aberration totale. Mais lui, il était président de GDF, donc on lui a reproché d'avoir un peu trop parlé, c'est certain, mais il travaillait pour sa société en disant c'est superbe, si la France va dans l'éolien, sous-entendu, on va remettre énormément de centrales à gaz et voilà, centrales à gaz, dont parenthèse, l'énergie du gaz, nous en sommes totalement dépendants. Elle est extérieure. Il n'y a plus de gaz à lac. Hein.
Alors, je rappelle sur Radio Courtoisie que nous parlons de votre livre « Éolienne, un scandale d'État ». On fait une respiration et je jette un coup d'œil sur les messages. Alors, à part le fait que ce peut être effectivement une agression visuelle, mais pas toujours, car c'est parfois beau, il y a quelque chose de pire, c'est la façon dont ces éoliennes mangent la terre arable par un énorme bloc de béton. Il faudrait des millions d'heures pour arracher les blocs. Il y a l'aspect visuel et ce qui se passe sous terre avec le béton. De plus, cela ne sert pas à grand-chose. Alors, c'est une dame qui dit ça.
C'est vrai.
Une autre dame dit « Votre comparaison avec Don Quichotte me fait penser à un film que je vous recommande ». Le film Enchanteur espagnol dans lequel un vieux monsieur, un peu fou, considère les éoliennes comme des géants à combattre. Sensationnel de poésie. Ben, voilà, ouais, c'est poétique, mais c'est ça. Aujourd'hui, on dit « Ouah !» et non plus « Oh là là !» La chanson française « Oh là là, mademoiselle !» Très bonne chanson, tout à fait charmante. Vous entendre dire sans cesse « Oh là là !» Ni vous ni moi, on a dit « Oh là là !»
Je ne sais pas, ou alors je ne me suis pas écouté.
Ben, non, mais c'est peut-être moi qui ai dit « Oh là là !» C'est très gentil. Vous êtes sûr que vous êtes bien sur Radio Courtoisie ? Bien. Alors, un autre message avant de repartir. On va parler justement de l'histoire du béton. Là, c'est une bonne idée.
Oui.
Attendez, là, c'est écrit un peu plus petit. Il y a un lien entre la floraison des éoliennes et l'apparente disparition des ingénieurs type des migrants. Pardon. Il y a un lien entre la floraison des éoliennes et l'apparente disparition des migreurs hirondelles, martinets. Notamment cette année.
Oui.
Si oui, absolument. Que peut-on faire pour réagir ?
Je répondrai à cette question
voilà.
aussi.
Ouais. Bon, ben ça, on la garde. Alors, les nuisances à cause du. Ça commençait bien, là, en disant oui, c'est. Peut-être effectivement une agression visuelle, mais pas toujours, car c'est parfois beau. D'accord ?
Oui.
Mais alors après, ça se déglingue.
Oui.
C'est vrai que s'il n'y en a qu'une, comme ça, peut-être que oui, bon, voilà, c'est un peu comme l'atonium à Bruxelles, mais.
Oui.
Mais une, hein, voilà.
Une grande où on pourrait mettre des pales sur la tour Eiffel, pratiquement.
Oui, absolument. Oui, absolument.
Alors, sur le béton, cette personne, cet auditeur ou cette auditrice, si j'ai bien entendu, oui, a tout à fait raison. Parce qu'il y a la partie visible, mais en fait, pour couler une éolienne... Alors, il faut savoir une chose, c'est que les éoliennes sont de plus en plus grandes. Et aujourd'hui, on va arriver très vite, si on continue cette folie, hein, bien évidemment, j'espère que ça s'arrêtera, mais on va arriver très vite vers des pylônes qui vont dépasser les 150, 180 mètres, voire 200 mètres, on parle de 200 mètres. Ce qui veut dire que les pales vont être encore plus importantes, et on va avoir des hauteurs en haute pale maintenant à 250, 260 mètres, ça va venir très vite, si on continue.
Oui. Tout ça dans le vent, donc il faut une assise terrible.
Donc il faut une assise terrible. Et aujourd'hui, en moyenne, on peut considérer que pour les éoliennes, parce qu'on a des plus petites et des plus grandes, elles sont, il y a pratiquement 1100 tonnes minimum de béton et d'acier enfouis sous la terre. Voilà. Ce qui a des effets pervers de toute nature. Ça veut dire que les propriétaires terriens, ils vont avoir leur loyer pendant 30 ans ou 20 ans selon les contrats. Mais après, il faut savoir une chose, c'est que les terrains ne seront plus exploitables.
Voilà,
en sachant autre chose, c'est que dans les contrats passés, il est dit très clairement... Mais après nous le déluge, dirait-on, que c'est à la charge du propriétaire à la fin du contrat d'exploitation de démonter.
Ah oui, ben bonjour.
Ils ne le feront jamais. Ils le feront jamais.
Entendu.
Alors, aux États-Unis, je cite l'exemple de l'Arizona, où il y a un champ, un parc éolien, qui ne fonctionne plus, puisque les Américains ne sont pas complètement idiots, ils ont arrêté l'éolien. Un parc de 15 000 éoliennes qui rouillent depuis plus de 15 ans.
Alors
c'est effarant.
Ça représente
effarant.
Du béton.
Mais bien sûr. Oui. Ce sont des terres qui seront absolument inutilisables.
Ils sont foutus.
Oui, oui. Ça, c'est très révélateur de la fausse écologie. C'est-à-dire, l'écologie, c'est quelque chose qui doit s'apprécier dans le temps. Et donc, d'imaginer que pour des profits immédiats, on va condamner des terres qui ne seront plus exploitables après. Alors certes, on voit rien, c'est sous la terre, mais c'est condamné. Il y aura pas, il poussera pas une carotte ou
une betterave dans ces.
Mais exactement, mais bien sûr. Moi, j'ai un souvenir, c'est anecdotique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire de l'écoboage. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'écoboage. L'écoboage, c'est une pratique qui se faisait beaucoup jusqu'au 19e siècle, qui consistait à la fin des récoltes et à la fin des cultures, à l'automne, à sarcler un peu la terre et à brûler tous les résidus. Ce qui avait un effet immédiat d'engrais, mais avec une surpondération de ces engrais, ne me demandez pas le détail des nitrates et tout ça, ce qui fait que des scientifiques du 19e siècle s'étaient aperçus que ce qui améliorait la culture ne le ferait que 20 ou 30 ans et qu'après, on aurait une baisse des productions. Eh bien, pratiquement dans toute la France, à part peut-être des coins montagneux, il y a eu une affaire terrible dans le Pays Basque, quelqu'un qui avait fait de l'écobage et il y a eu deux ou trois morts qui ont été pris dans un incendie, mais c'était contraire à la loi. Mais spontanément au 19e siècle, quand ça s'est su cette affaire-là, les gens ont arrêté de pratiquer l'écobage. Ils ont arrêté de pratiquer l'écobage en pensant aux générations futures.
Ah voilà, oui.
Et vous voyez que là, on n'est pas dans les générations futures.
Non, justement, alors que l'écologie, c'est pour l'avenir.
Eh bien oui, normalement, c'est l'avenir, exactement.
Parce que le jour où s'il faut sortir toutes ces masses de béton... En plus, la Terre, elle est foutue, quoi.
Mais c'est fini. On les aura dans 200 ans, on les aura toujours. Faut pas rêver. Qui va enlever ça?
Mais c'est aussi catastrophique que les déchets nucléaires.
Mais bien sûr. Oui, bien sûr. C'est même...
Bon, vous m'accordez deux secondes?
Allez, bien sûr.
Il y a un avantage, c'est que comme j'ai pas d'assistante, je découvre. Si ce sont des compliments, c'est bon. Si c'est une vacherie, bon. Bonjour, j'ai eu l'occasion d'écrire à M. Chérias de Méta pour lui signifier par avance de l'excellente initiative d'inviter M. Alain Darguin pour son livre « Éolienne, un scandale d'État ». Je renouvelle mes félicitations à l'occasion de la diffusion de ce livre au journal. Toutes mes salutations. Eh bien, cher... auditeurs et adhérents de Radio Courtoisie, nous vous remercions, Monsieur Darguin,
oui,
et moi.
Merci à vous.
Alors, qu'en est-il du bruit ça allait venir. Qu'en est-il du bruit que les éoliennes génèrent? Cela fait beaucoup de bruit. C'est le prochain chapitre. Enfin, pour l'instant, on ne se fait pas en guirlandais. Bon, on a des auditeurs qui sont écolos, mais raisonnables. Votre injuste charge contre Viollet-le-Duc pour le plaisir de faire un bon mot en associant le château de Pierrefonds et la restauration de Notre-Dame montre que votre jugement est fondé sur la méconnaissance du sujet. Alors, je sais tout ce que l'architecture et tout ce que les monuments qui sont encore debout aujourd'hui doivent à Viollet-le-Duc parce que c'était un très très grand architecte et qui était dans le respect de l'origine du monument. Merci beaucoup de me donner une leçon, mais effectivement, j'ai fait un humour facile, comme le ferait n'importe quel chansonnier. Je pensais que de temps en temps, sur Radio Courtoisie, dans le cadre du souvenir de Serge Beketch, on pouvait se permettre ce genre de fantaisie. Je vous prie de m'excuser si je vous ai heurté et vive Viollet-le-Duc. Bien, alors le bruit des éoliennes, vous avez noté.
On avait avant une question sur les migrateurs.
Ah oui, les migrateurs.
Les oiseaux.
Les oiseaux.
Alors
les
c'est aussi un sujet, et c'est un sujet où il y a aussi un scandale dont on peut parler pour répondre à la question de l'auditeur. Les éoliennes sont sur les circuits de passage des migrateurs.
Des migrateurs.
Voilà. Et il y a deux grands couloirs. Alors, c'est un des sujets que je traite dans le livre. Il y a deux grands couloirs en France. On va la faire très vite. Il y en a un qui passe par le nord et qui descend sur tout l'ouest, le littoral, jusqu'à l'Espagne et qui après file sur l'Afrique. Et l'autre est dans l'autre sens. Il passe par le nord-est, l'Alsace. Il descend la vallée du Rhône. Il rattrape la Méditerranée et il repart vers l'Afrique. Et en effet, les éoliennes tuent un nombre considérable de migrateurs. Pourquoi ? Parce que les migrateurs, les oiseaux migrateurs, voyagent en général beaucoup de nuit. Et la nuit, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez une éolienne qui clignote. Il y a le feu rouge qui clignote. Eh bien, les oiseaux, eux, s'écartent du feu rouge. Mais ils ne voient pas les pales qui tournent. Et donc, ils tombent. Ce qui entraîne un scandale véritable. Alors, les écologistes, théoriquement, devraient être pour la protection des oiseaux. Il y a même une ligue pour ça, on va en parler. Eh bien, en fait, donc, sur toute l'Europe... Il y a des associations ornithologiques qui ont constaté ce tribut considérable qui est payé par les migrateurs de toutes sortes. Hein. Ça va des cigognes aux oies cendrées, à tout ce que vous pouvez imaginer.
On peut trouver des cadavres.
Alors justement, et ça entraîne une chaîne de destruction totale parce que le lendemain, en effet, il y a tous ces oiseaux morts ou blessés qui sont dans des, il y en a qui sont des charognes blessées, etc., qui sont pas tout à fait mortes, et ça attire du coup les rapaces,
évidemment,
diurnes. Et à ce moment-là, les rapaces, eux, ils survolent et ils voient pas les pales en hauteur et ils se jettent en tombant sur ces oiseaux, ces malheureux oiseaux blessés ou morts, et eux-mêmes tombent. Et donc, on trouve maintenant énormément de rapaces qui disparaissent. Il y a un faucon extrêmement rare qui s'appelle le faucon cresserellette. Les ornithologues me pardonneront si j'ai fait une petite erreur là-dessus, mais qui est très rare, qui est dans le sud, dans le Languedoc. C'est une espèce très protégée, il y en a de moins en moins. Et ils sont en train de disparaître, absolument.
C'est aberrant, c'est des choses à laquelle on ne pensait pas au départ.
Non, mais c'est pire que ça. C'est aberrant, mais il faut savoir une chose, c'est que la Ligue de protection des oiseaux, qui est dirigée par Bougrain Dubourg, qui est un personnage emblématique de la lutte pour la protection des oiseaux. Figurez-vous que la LPO, la Ligue de protection des oiseaux qu'il dirige, qu'il préside, elle est associée désormais dans la plupart des dossiers d'études environnementales pour l'implantation de parcs éoliens. Et c'est comme une société commerciale. Ils font les études environnementales et c'est eux qui concluent sur l'aspect faisabilité environnementale, la Ligue de protection des oiseaux.
Ah, c'est inouï, ça.
Et ils touchent des centaines de milliers d'euros pour ce faire. J'ai découvert, et je le cite dans le livre, un dossier sur la Vendée, un parc, le parc du Fenouillet de mémoire, un projet de parc éolien sur lequel la LPO locale annonçait déjà, ils ont laissé traîner ça sur internet, ils ont eu tort, et annonçait déjà une facture de 25 000 euros pour une étude de faisabilité, et après un véritable document commercial, alors que c'est une association, hein, loi 1901, un document commercial disant « Nous pouvons conduire pour vos autres projets toutes vos études environnementales et nous pourrions le faire pour, je ne sais plus, c'était 45 000 ou 50 000 euros, etc., de factures à payer. »
Ce sont de drôles d'oiseaux, dites-moi.
Ce sont de très drôles d'oiseaux, oui.
Et des rapaces.
Le canard enchaîné avait, il y a quelques années, soulevé ce point-là.
Ah, ça, c'est inouï.
Mais plus personne n'en parle. Plus personne n'en parle.
Apparemment. Ouais. Non, c'est voilà.
Donc, lisez mon livre, il y a tout un chapitre là-dessus aussi.
Je l'ai lu il y a un moment.
non, mais je le dis aux auditeurs.
Et je fermais les yeux deux secondes et je voyais les moineaux sur les fils électriques, oui, rappelant les, oui, notes sur des portées musicales. On en est bien loin.
On en est très loin.
Ça, alors là, cette espèce de boucherie d'oiseaux à cause des éoliennes, c'est, oui, absolument effrayant.
Effrayant. En Espagne, il y a la Sociedad de Ornitología, ou quelque, oui, chose comme ça, l'équivalent de la LPO en France, qui a éjecté, si j'ose dire, son président, parce que manifestement, il était de connivence avec les programmes éoliens. Et le nouveau président a fait faire des études, cette fois très sérieuses. Ils estiment qu'il y a 1 300 000 à 1 400 000 oiseaux qui meurent, migrateurs, qui meurent chaque année sur le territoire espagnol.
Mais c'est... Oui, alors uniquement...
Alors l'Allemagne, c'est effarant. L'Allemagne, c'est encore pire.
Alors, c'est bien, peut-être que les écolos ont décidé de supprimer les oiseaux.
Ben peut-être.
Vous savez, il y a une pièce de Jean Anouilh qui disait « Les oiseaux font caca partout ». C'est peut-être une façon d'arrêter le phénomène. C'est une très jolie pièce d'Anouilh. Non, mais c'est... Oui. Moi, je suis consterné.
On en rit, mais c'est consternant.
Ah non, mais attendez, c'est effrayant. On devrait tous être debout. Là.
Mais il y a, derrière ce projet, il y a de l'argent. Et donc, il y a des vautours. Voilà. Et ceux-là, par contre, ils ne tombent pas dans les éoliennes.
J'allais vous dire le nom. Fric.
Oui, quoi, voilà. Exactement.
C'est terrifiant, ça. Mon Dieu.
Il y avait une autre question sur le bruit.
Le bruit, oui, c'est ça. Oui.
Alors, je vais répondre à l'auditeur, mais d'une certaine façon avec un paradoxe, en disant d'une certaine façon, c'est pas le bruit qu'on entend qui est le pire, c'est celui qu'on n'entend pas.
Ah, alors, va expliquer-moi ça.
Alors, c'est très simple, c'est que les éoliennes, bien sûr, elles émettent un petit peu de bruit. Mmh. D'ailleurs, il y a des visites en car maintenant, des visites guidées pour aller voir comme c'est beau les éoliennes et on emmène les retraités d'un coin où on veut mettre des éoliennes, on leur paye un bon voyage, un bon repas, oui, et on leur dit, tenez, regardez, mettez-vous au pied du pylône, vous voyez, c'est tout à fait supportable.
Et ça coûte tant d'ailleurs.
C'est vrai que c'est très supportable quand on est au pied du pylône, parce qu'en fait, on n'entend pratiquement rien.
Et puis on n'y est pas longtemps.
On remonte dans le car et les jolies colonies de vacances et on recommence. Voilà. La réalité est tout autre. Ça fait du bruit quand ça tourne beaucoup, mais Le pire, ce sont les infrasons, c'est-à-dire les sons de basse fréquence que les éoliennes émettent et que nous n'entendons pas, nous les humains.
Mais qui existent.
Et qui existent. Et pourquoi ils existent ? Parce que les éoliennes, en tournant, il y a un phénomène, lorsque la pale passe devant le mât, de compression de l'air qui entraîne l'émission de sons de basse fréquence, donc des infrasons. Les infrasons, les animaux les entendent.
Oui, bien sûr. Oui. Hein,
les oiseaux, d'ailleurs, s'écartent ou essayent de s'écarter quand c'est trop fort. Après, ça dépend du temps. On ne va pas rentrer dans les détails techniques. C'est vrai que s'il y a un temps humide et lourd, c'est plus propice à la diffusion des infrasons, etc., que dans d'autres cas. Vous savez, c'est comme les tremblements de terre. Lorsqu'il y a un tremblement de terre, les oiseaux se taisent et les animaux fuient. Les animaux sauvages fuient. Ben, c'est un petit peu la même chose, mais sauf que nous ne les entendons pas. Et quand la France a un périmètre de sauvegarde des riverains qui est de 500 mètres, nous sommes quand même un des seuls pays du monde éolien à avoir ça, pour une raison très simple, hein, c'est qu'ils veulent leurs objectifs, qu'il y a de l'argent derrière, et qu'en plus, ils veulent développer les éoliennes parce que c'est une masse considérable de dollars, si j'ose dire, ou d'euros à gagner. Et donc, ils savent très bien que si... Et la France a une particularité, c'est une digression un peu que je fais, mais la France a une particularité, c'est qu'elle a un habitat très dispersé. Nous avions 36 000 communes il y a encore un an ou deux, les regroupements sont en train de se faire de plus en plus, ça ne changera pas l'habitat dispersé qui reste, ce qui fait que si on passait de 500 à 1500 mètres, qui était la recommandation de l'Académie de médecine en 2006,
ça complique les choses.
Et bien ça compliquerait les choses et ils n'arriveraient pas à leur plan de développement.
Voilà. Alors 500 mètres, c'est insuffisant.
500 mètres, c'est très insuffisant. Et moralité, entre 500 et 1500 mètres, et il y a des gens qui souffrent dans leur chair des infrasons. Alors, les infrasons, ils se manifestent comment ? En fait, les effets de ces sons à basse fréquence sont des effets lancinants qui touche à la fois à des problèmes d'oreille, notamment les gens qui peuvent être sensibles des oreilles, vous savez, c'est un peu comme les acouphènes, mais bien pire. Les gens qui ont des pathologies antérieures, que ce soit cardiaques, de cardiologie, que ce soit des problèmes d'yeux, que ce soit des problèmes de vertige, etc., ou des problèmes au cerveau, ces gens-là ont leurs affections qui sont exacerbées. Tout ça a été démontré par des chercheurs dans le monde entier. Je pense notamment à un livre que je cite, qui est de Nina Pierpont, qui est une anglo-saxonne qui a écrit un livre qui s'appelle, et là je le dirai en anglais, puisqu'il est écrit comme ça.
On mettra un euro.
On le mettra pas parce que c'est le nom du livre. Il s'appelle Wind Turbine Syndrome, le syndrome des éoliennes. Et qui veut dire quoi ? Qui veut dire simplement, elle a fait une étude expérimentale sur plusieurs sites éoliens très éloignés les uns des autres, et elle en a tiré la conclusion que partout où elle allait, les pathologies étaient les mêmes.
Ah bah donc, voilà. Oui.
Donc il y a quelque chose. Et malheureusement, personne ne veut en tenir compte en France, on se tait, et mieux que ça, l'Académie de médecine, qui était la première à avoir dit en 2006, il faut 1500 mètres de distance entre une maison. Maintenant elle baisse les bras, au contraire, elle dit très probablement, tout ça est un effet psychologique des gens qui souffrent.
Sûr.
Alors, je pense qu'il faudrait envoyer les membres de l'Académie de médecine, qui sont certainement d'honorables médecins et très experts dans leur domaine. Mais il faudrait, c'est comme la LPO, hein, il faudrait leur montrer peut-être, pour la LPO, il faudrait leur montrer ce que c'est qu'un oiseau migrateur qui tombe sur une éolienne. Mais là, je pense qu'il faudrait qu'ils se déplacent sur le terrain, qu'ils aillent voir un petit peu ce que j'ai fait. Et je cite dans le livre un certain nombre d'endroits où il y a des parcs éoliens avec des gens qui ont des souffrances, mais considérables, des cas d'épilepsie et des choses comme ça. Et c'est en ce sens, je dis, c'est un scandale d'État et qui vaudra, de mon point de vue, la Cour de justice de la République, un jour ou l'autre, pour les dirigeants qui ont laissé faire ça.
Mais cela dit, c'est vrai que quand même, entre 1500 mètres et 500 mètres,
il y a une énorme différence. J'ai fait une estimation dans le livre qui est, de mon point de vue, une estimation extrêmement basse. Je dis, si on continue cette folie, et qu'on va vers les objectifs que la Commission européenne nous demande d'atteindre en matière avec la règle des 320 dont je parlais, en matière d'éolienne, eh bien, il y aura au moins, rien que dans la distance de 500 à 1500 mètres non respectés, ça va exposer plus de 1 200 000 riverains en France à horizon 2020.
Oui, puis alors après...
Et ça, c'est passible, c'est vraiment passible de la Cour de justice, car c'est un entêtement. Quand on est politique, on est là aussi pour que le bien public soit respecté.
Oui, puis,
et là, on est dans le mal public. On est dans le mal public.
Oui, avec,
tout ça parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a
exactement. Oui, mais c'est un crime, quoi.
C'est un crime.
Alors, il nous reste 10 minutes, je crois, m'a dit Philippe, à peu près. Ah, 7 maintenant. Ah, vous savez ce qu'on va faire?
Je suis trop bavard.
Non, pas du tout. Mais non, attendez, bah, vous pourrez revenir hein, éventuellement. Alors, on va reciter le livre.
Oui.
Dites-le vous-même.
Alors écoutez, il est dans la collection Pourquoi,
voilà.
À Synthèse Édition, et il s'appelle Éolienne, un scandale d'État. Vous pouvez le commander d'ailleurs sur, dans toutes les librairies, mais le plus efficace, c'est sous le site internet de Synthèse Édition, www.synthèse-édition.com.
Et l'auteur que j'ai devant moi se nomme Albin Darguin.
Albin Darguin.
Qu'est-ce que j'ai dit? Albin? Non, Albin, pardon. Et pendant qu'on y est dans Synthèse, eh bien, on va faire l'annonce de...
Oui.
Hein, voilà, je vous laisse faire.
Absolument. Eh bien, en fait, Synthèse Édition, ça fait partie de Synthèse Nationale. Et Synthèse Nationale, comme tous les ans, organise sa journée nationale et identitaire le dimanche 1er octobre. Ça aura lieu à l'espace Jean Monnet, 47 rue des Soleils, S-O-L-E-T-S, et c'est à Rungis, de 11h, ouverture des portes à 11h jusqu'à 18h, avec la présence de Jean-Marie Le Pen à 15h et votre serviteur en tant que président aussi
des amis
de Synthèse. Voilà, et votre serviteur, en l'occurrence moi, je serai également présent pour dédicacer le livre à cette occasion-là toute la journée.
Une grande affaire de famille, bien sûr. J'en profite pour rester encore dans Synthèse. Que Charles-Henri Deslois, qui a écrit Les Enfants de Maastricht, dédicacera son livre le samedi 14 octobre entre 15h et 18h à la librairie française 5 rue Auguste Bartholdi, Paris 15e.
Voilà, très bon livre.
Ça, si on arrête l'émission, on n'a rien oublié, on a tout dit. Je vais vous donner une citation, vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai trouvé ça, alors c'est Alexandre Gady qui a écrit, deux points, ouvrez les guillemets. Les marchands d'éoliennes en mettraient dans la galerie des glaces s'il y avait du vent. Il n'y a pas de limite. Je pense que vous êtes d'accord.
Ah, totalement d'accord. Oui, mais non, il n'y a pas de limite. Aussi bien sur le beau, les atteintes au beau des éoliennes, il y a des endroits. Enfin, il faut savoir une chose, c'est tout de même, il devait y avoir un périmètre de sécurité, enfin de protection des monuments historiques qui devait être de 10 000 mètres, 10 km. Voilà. Cette règle, il y a eu avec un acharnement incroyable de nos gouvernants, cette règle n'est pas passée et elle a été refusée, surtout dans la période Hollande avec nos écologistes de la loi de transition énergétique, etc., etc. Voilà. Donc, bien sûr, ils en mettraient dans la galerie des glaces, ils en mettraient dans le grand bassin de Versailles, ils en mettraient partout.
Ah oui, parce qu'il y a du fric à la clé.
Exactement.
Je vois que des messages arrivent et il nous reste 4 minutes, alors on va regarder les messages. Merci. Bonjour madame, merci beaucoup. Je fais très vite. Émission. Ah, bravo. Un monsieur qui nous dit émission formidable. Que pensez-vous du nucléaire au lieu des éoliennes? On l'a un petit peu dit déjà. Merci pour l'information sur la LPO. Je ne cotiserai plus pour eux. Bravo. Que proposez-vous comme fournisseur d'électricité? Car je ne veux pas du Linky. Merci pour l'émission. Alors ça, c'est une dame. Un autre monsieur. Les politiques sont comme les chevaux de course. Il y a aussi des bourricots. Un bourricot ne fera jamais un cheval de course, mais un cheval de course fera le bourricot. Que pensez-vous des JO à Châteauroux? Ah ben, c'est pas tout le monde sait que je... Ben écoutez, Dieu merci, ils n'auront pas lieu à Châteauroux. Je pourrais continuer à me promener tranquillement si Dieu me prête vie jusqu'à l'arrivée des Jeux Olympiques. Message. Cette contribution ne coûte pas beaucoup plus cher que le pacte de... Nixon avec la Chine, que nous avons tous payé, il vous faudrait peut-être un peu étendre votre réflexion.
Ah bon?
Quoi? Vous jetez le bébé avec l'eau du bain et la manière dont il a été récupéré par nos petits maîtres, sous sa forme néo-mystique. Bon, enfin, pardonnez-moi, c'est écrit tout petit, je comprends pas très bien.
Pas tout compris non
plus.
Mais
je crois que c'est un auditeur, l'auditeur, qui n'est pas content, enfin, ou qui n'est pas tout à fait satisfait. Pour le reste, tout le monde a l'air bien heureux, bien content. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place des éoliennes?
Alors, pour répondre sur l'énergie nucléaire, on n'en a pas beaucoup parlé, mais aujourd'hui, la France a un avantage stratégique en matière de production d'énergie, c'est que nous avons ce qu'on appelle un bouquet énergétique qui est composé peu ou prou de l'ordre de 80% de production d'énergie électrique d'origine nucléaire, à laquelle se rajoute l'hydraulique, qui est une énergie renouvelable parfaite, pour 13 ou 14%. Et puis le reste, la variable d'ajustement, si on peut dire, ça sera, c'est avec le thermique, qui lui est polluant, qui émet du CO2. Parce qu'il faut savoir que derrière tout ça, l'objectif de la Commission européenne, c'est de nous faire émettre moins de CO2. Or, nous n'en émettons pas, puisque 80% environ d'énergie nucléaire plus 14% d'hydraulique, ça fait 94%, comme tout le monde le dit. Donc, nous avons un modèle exemplaire. Et donc, plus on ira vers l'éolienne, plus on sera obligé de mettre du thermique et plus nous deviendrons aussi pollueurs que les Américains et que les Allemands qui sont au niveau 2 mondial. Voilà. C'est ça l'ambiguïté et l'un des mensonges encore de l'éolien.
Ah bah d'accord. Bien, alors il nous reste 2 minutes. On va rappeler votre livre. Allez, oui. Je vous laisse faire, autant que ça soit la voix de son maître.
Donc, Éolienne, un scandale d'État. Je suis Alban Darguin et merci de m'avoir invité. Et c'est à Synthèse Édition. Synthèse Édition, dont je rappelle l'adresse internet où vous pouvez commander le livre et vous l'aurez par retour, c'est www.synthèse-édition.com.
Merci. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le 18 octobre. Si je me souviens bien, ce sera l'anniversaire de ma première émission. Et comme j'ai reçu pas mal de messages qui me demandaient d'aller un peu plus loin dans mon histoire des courses, eh bien, comme j'ai quelques invités qui m'ont fait faux bond, comme ça a l'air d'être à la mode ces derniers temps, eh bien, je ferai cette émission, je vais la préparer sur la suite de l'émission sur les courses. Mais là, ça sera peut-être beaucoup moins technique, parce que je vous avais promis que si j'en faisais une seconde, ça serait pour vous raconter des histoires drôles, amusantes, parfois tristes, du monde du cheval et son fonctionnement, des anecdotes, etc. Il nous reste 1 minute. Eh bien alors, j'en profite pour vous remercier. Je demande aux auditeurs...
C'est moi qui vous remercie.
Non, écoutez, c'est un vrai plaisir et on a appris plein de choses. Mmh. On se doutait bien que c'était pas extraordinaire hein, quand même, les éoliennes. Et puis, écoutez, n'oubliez pas de venir à Rungis, c'est le 1er octobre. Hein. Voilà, pour nous retrouver. Et puis, vous aurez la joie de rencontrer le président Le Pen, qui nous fait le bonheur de venir. Mmh. Et c'est toujours un moment familial, quelque part, ces retrouvailles.
Ouais.
Voilà. Et bien alors, je vous dis aussi au premier.
Au premier, absolument.
C'est bon, cher Philippe.
Merci beaucoup.
Et bien voilà.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre Chronique de la vie parisienne, dirigée par Jean-Paul Chériguez de Olmeta, diffusée en direct mercredi 20 septembre 2017 de 10h45 à 11h45 et réalisée par Philippe. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros. Ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.